Histoire d'archives avec Laure Franek. Bonjour Laure.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, dans votre émission mensuelle, vous allez parler d'un ouvrage qui est en cours par rapport à la Grande Guerre.
Tout à fait. Oui, parce que nous sommes dans la dernière année du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et à cette occasion, le service des archives départementales va publier une synthèse des travaux qui ont été menés dans notre service depuis 2014, qui aura pour titre La Grande Guerre des Bas-Alpins. Et donc l'idée, ce sera vraiment de non seulement de faire la synthèse, mais aussi de revoir certaines parties, de développer certains aspects, puis vraiment de centrer ça sur comment les Bas-Alpins ont vécu cet épisode tragique de l'histoire, la Première Guerre mondiale. Voilà.
Et par rapport à cette tragédie, parce qu'il faut parler quand même d'une tragédie, est-ce qu'il y a eu des mouvements au niveau frontalier ?
Tout à fait. Donc c'est d'ailleurs l'objet un peu de cette émission aujourd'hui. Dans l'ouvrage, un des chapitres s'intitule « Venu d'ailleurs » et a pour objet d'exposer justement ces mouvements de population, ce qu'on va appeler les étrangers. Alors évidemment, dans les étrangers, on exclut les coloniaux. Hein. C'est une thématique à part entière. Parce que, on le sait, les coloniaux ont combattu sous le drapeau français, ont d'ailleurs payé eux aussi un lourd tribut à la guerre, mais ça pourrait faire l'objet d'une émission à part entière. Voilà. Et dans ce chapitre, donc venu d'ailleurs, comme je suis en train de relire l'ouvrage écrit par Jean-Christophe Labadie, hein, le directeur des archives départementales, pour en corriger les fautes, c'est vrai qu'en lisant ce chapitre, on ne peut pas s'empêcher de faire des liens avec l'actualité. La thématique des réfugiés, des exilés est vraiment une thématique qu'on trouve tout au long de l'histoire. Les mouvements de population, comme vous l'avez dit, pour parler de manière plus générale. Et c'est vrai que c'est quand même toujours intéressant de regarder un peu derrière nous comment ça s'est passé. On dit que l'histoire se répète, c'est malheureusement trop vrai. Et voilà, donc j'avais envie de partager avec nos auditeurs cette page de l'histoire. Voilà, donc dans les étrangers, il y a plusieurs groupes, j'allais dire. Il y a les réfugiés, les prisonniers, les évacués. Je vais très vite, hein. On va un petit peu développer. En fait, on sait qu'en août 1914, il y a une statistique officielle qui évalue à plus de 11 000 personnes le nombre d'étrangers dans les Basses-Alpes, dans un département qui compte 100 000 habitants. C'est quand même important. Et ce sont surtout des Italiens. Et très, très loin derrière, il y a des Suisses et des Espagnols. Alors, il y a des Italiens qui sont quand même d'origine italienne, mais qui sont naturalisés. Ils sont pourtant, dès avant la guerre, considérés comme à surveiller. On s'inquiète un peu. Ce sont des hommes qui apparaissent comme suspects et qu'il faut donc surveiller, qu'on inscrit dans un carnet qu'on appelle le carnet B, qui est un carnet qui permet de suivre les étrangers, justement. Par exemple, on a retrouvé dans les archives mention d'un Italien naturalisé, mais qui est donc français maintenant, qui s'appelle Jacques Rosano, dit Rosan, qui demeure à la Condamine en Ubaye, qui exerce son activité postale entre l'Arche à la frontière et Barcelonnette. Alors c'est intéressant, en 1893, donc bien avant la guerre, il est indiqué dans le carnet B qu'il est suspecté d'espionnage. Il serait un agent de Bianchi, hein, parce qu'en Italie, évidemment, il y a une actualité politique assez mouvementée, donc on s'inquiète. Alors en 1910, on écrit « Il va très rarement en Italie, mais il reste suspect ». Puis finalement, la mention a arrêté, parce que c'était éventuellement possible, dans son carnet et biffé. Voilà. Mais alors lui, par exemple, on a constaté qu'il avait plus d'activité dite dangereuse. On a cessé de surveiller, mais il y en a bien d'autres qui ont continué à être surveillés.
Allez-y. Et ces activités dangereuses, c'est par rapport au mouvement anarchiste ?
Oui, en fait, souvent, c'était des supputations totales. Hein, c'est-à-dire, c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est le fait même d'être étranger qui est suspect. Hein, on s'inquiète. La présence d'un étranger est susceptible, évidemment, d'avoir gardé des liens dans son pays d'origine et donc susceptible d'apporter des troubles. Donc, c'est vraiment ça. Après, on peut être suspect sans être étranger. Par exemple, les Français, selon leur engagement politique, sont aussi à surveiller éventuellement. On sait qu'il y a un chef de bureau à la préfecture qui était aussi inscrit dans le carnet B parce qu'il avait une activité politique et puis qu'il était très proche de la CGT. Et donc, on a un rapport du commissaire de Digne en 1910 qui écrit au sujet du socialisme dans le département, le socialisme basalpin est nettement par sa tête syndicaliste, révolutionnaire et antimilitariste. Donc, c'est sûr que si quelqu'un, de manière ouverte, entre guillemets, afficher des sympathies ou en tout cas ne se cachait pas de ce type d'activité, il était considéré comme à surveiller dans le fameux carnet B qui n'était pas réservé aux étrangers. Alors ce qui est intéressant pour ce chef de bureau, c'est qu'en fait, donc on a plus la guerre va s'approcher, alors on ne sait pas, soit il arrête d'être si militant, soit il devient plus discret. Mais en tout cas, voilà ce que dit le commissaire dans un nouveau rapport. Excusez-moi, parce que je vois une faute de typographie dans l'eau, et donc je corrige pour ne pas oublier, parce qu'elle n'a pas été repérée, celle-là. Donc, un nouveau rapport en 1913, il écrit « Ce fonctionnaire, donc on parle du chef du bureau de la préfecture, hein, use de prudence depuis le déplacement de son ami, monsieur le professeur Audru. » Alors ça, c'est intéressant, parce que le professeur Audru était un professeur d'anglais du lycée Gassendi, et on a retrouvé dans nos archives, c'est dommage que vos auditeurs ne puissent pas voir, je vous le montre à vous, mais et j'espère que les auditeurs...
Mais je scannerai, je mettrai sur le site.
Voilà, par exemple, alors ça, c'est que là, l'exemplaire n'est pas terrible, mais sinon, ce sera publié dans l'ouvrage. En fait, il y a eu en 1912, donc on est avant la guerre toujours, hein, une campagne qui est lancée contre le fameux professeur Audru. C'est par une mystérieuse main noire patriotique. Vive l'armée, abat les antimilitaristes, mort aux lâches, conspuez Audru. Fesseur antimilitarisme, lycée de Digne, voilà. Donc et en fait, oui, donc visiblement ce fameux professeur avait une activité politique et surtout s'affichait comme pacifiste, ce qui ne plaisait pas à certains. Et il en est carrément venu aux mains avec un autre enseignant du lycée Gassendi. On a retrouvé ça dans les archives, voilà. Donc bon, voilà, pour vous dire que déjà avant-guerre, bon, c'est évidemment, ce sont des sujets de surveillance et de crispation, voire de tension dans la population. Et alors, évidemment, la guerre va cristalliser tout ça. Donc durant la guerre, on contrôle les déplacements des étrangers, mais c'est assez difficile à appliquer. Et du coup, en 1917, il est instauré une carte d'identité d'étrangers. Voilà. Et alors, cette carte d'identité, elle est rendue obligatoire pour les étrangers qui résident en France. Et on y scelle même une photographie pour éviter les falsifications. Donc là, on est vraiment
dans le fichage.
Dans le fichage, tout à fait. Après, la carte d'identité, elle est toujours d'actualité. Hein. Donc, en France, depuis très longtemps, on a une pratique de fichage, en tout cas de suivi de la population, qui est plus important que dans certains autres pays, même des pays jugés extrêmement libéraux, comme par exemple les États-Unis, il n'y a pas de carte d'identité. Hein. Donc il y a d'autres moyens de contrôle de la population, mais ouais, c'est assez intéressant de voir, selon les nations, comment on traite différemment les choses. Voilà. Donc ça, c'est pour les étrangers en général, j'allais dire, ceux qui étaient là déjà avant la guerre. Je reviendrai après, ou je peux même en parler maintenant. Il s'est même trouvé une espèce qui peut nous sembler aujourd'hui, avec le recul, une aberration, c'est-à-dire des étrangers qui étaient là depuis très longtemps en France se sont retrouvés donc suspects et donc parfois ont été internés. Internés, alors évidemment, le mot interné est très connoté. On n'est pas non plus dans un camp on a connu au cours de la Seconde Guerre mondiale, mais notamment à Hanot, dans un collège privé qui n'est pas utilisé, on va rassembler ce qu'on appelle les austro-allemands à tendance francophile. Voilà, donc souvent, ce sont donc des gens installés depuis très longtemps. Je ferai le portrait d'un de ces austro-allemands, comme ils sont indiqués. Le secrétaire général de la préfecture donc, explique que donc, le camp contient 55 internés, hommes et femmes, dont les antécédents, les attachent souvent même l'origine française, garantissent le loyalisme. Ceux-ci, sous réserve de certaines prescriptions disciplinaires, peuvent librement circuler dans les rues du bourg, où leur présence n'a jamais provoqué, juste ici, le moindre incident. Voilà, donc le dépôt est installé dans les locaux du collège privé qui s'appelle l'Institution de Saint-Vincent-de-Paul. Et c'est un camp familial, hein, c'est-à-dire que parfois, souvent même les femmes et les enfants ont rejoint l'époux dit suspect pour ne pas être séparés. Et alors après, c'est un règlement assez strict, hein, petit déjeuner 8 heures, déjeuner midi, dîner 6 heures. Coucher 8 heures, extinction de lumière 8h30. Voilà. Bon, en fait, dans la pratique, le règlement est assoupli. Les internés ont la possibilité de se promener dans le village d'un autre, ce qui d'ailleurs suscite quelques grognements de la part de la population qui ont un peu l'impression que ces Austro-Allemands sont dans un camp de vacances. Vous voyez,
ils auraient préféré que ce soit plus strict, apparemment.
Ben oui, c'est-à-dire que c'est des Austro-Allemands, hein, et puis les gens ne connaissaient pas forcément l'histoire de ces gens-là. Donc, notamment, par exemple, le fameux Maximilien Joseph Thomassen, ça c'est quand même. Évidemment, il ne s'agit pas d'en faire une généralité, mais c'est toujours intéressant. Donc, lui, il est né en 1875 en Rhénanie du Nord. Il a un père en fait d'origine hollandaise, une mère d'origine française. Bon, il est né en Allemagne, mais il y a très peu vécu. Et donc, en fait, il travaille en France depuis longtemps. Enfin, il est rentier, je crois même. Hein. Enfin, il vit en France depuis longtemps. Il vit avec une Française. Il a un fils engagé volontaire pour l'armée française. Il a deux beaux-frères morts pour la France. Et donc, il est resté interné 3 ans à Nantes. Il va s'épuiser à faire valoir sa situation, sa francophonie, auprès d'une administration qui est absolument sourde à tous ses appels. Donc, on a certaines de ses correspondances. Et donc, il écrit, par exemple, qu'il a si peu d'attache à son pays de naissance, qu'il signale dans un courrier que s'il n'a pas reconnu son fils, c'est justement pour ne pas lui donner, je cite, sa malheureuse nationalité. Vous voyez, c'est... Il l'a même poussé à s'engager volontairement dans l'armée dès 1913. Lui-même a voulu se faire naturaliser en 1910, mais la loi exigeant un séjour de 5 ans sur le territoire à compter de la date de la demande. C'est-à-dire qu'en fait, ça faisait plus longtemps qu'il vivait là, mais il n'avait pas fait la demande. Donc la période a expiré en février 15. Et la naturalisation lui a bien entendu été refusée en raison de la guerre. Du coup, il est interné en juin et son argent est mis sous séquestre. Sa femme a demandé à être internée avec lui à Nantes, ce qui est impossible puisqu'elle est française. Il entame les démarches qui lui permettront, espère-t-il, de faire aboutir sa demande de naturalisation, reconnaissance de son fils devant notaire, appui de sa belle-famille, soutien du préfet, directeur du dépôt, en vain. Finalement, le couple va demander à se marier afin que ce soit Jeanne Clément qui puisse rejoindre son mari, parce que vous savez que les femmes, quand elles épousaient un étranger, elles perdaient leur nationalité française. Hein. Donc du coup, elle perd sa nationalité française, elle peut habiter avec lui, enfin habiter... être interné avec lui à Nantes.
Oui, dans le camp. Oui.
Voilà, hein, puisque l'article 19 du Code Napoléon de 1804 impose la dénationalisation des Françaises mariées à un étranger. Hein. Vous verrez dans l'autre portrait que je ferai d'un autre étranger, on a exactement la même chose. Thomassen est conduit sous escorte en 1915 à la mairie des Nantes, où est célébré le mariage, et sa femme est internée le jour même. Voilà. C'est un couple qui s'aimait. Hein. Le couple va quitter ensemble le dépôt en novembre de 1918, et entre-temps, aucun des motifs de demande de libération ne sera considéré comme valable, pas plus sa position de père de soldat servant dans l'armée française que sa santé qui semble altérée par l'internement. Voilà, donc là on est quand même dans le jusqu'au boutisme de l'administration. Je ne sais pas si finalement ce monsieur est resté en France, je pense que oui, mais voilà, c'est...
Et les camps, quand l'armistice a été signé, juste après, qu'est-ce qu'ils sont devenus, les gens qui étaient dedans?
Ah bah après, bon, on n'a pas forcément toute l'histoire jusqu'au bout, mais bon, après les camps ont été fermés. En plus, là, c'est une école hein, en fait qui sert aujourd'hui. Hein. Je me demande si c'est pas le collège d'Anot ou voilà. Hein, c'est faudrait que je vérifie, mais c'est un établissement d'enseignement hein, actuellement. Voilà. Après, les gens sont repartis ou ont carrément changé de vie s'ils ont été trop dégoûtés par cet épisode malheureux. Voilà, donc ça, on est vraiment dans une catégorie de personnes, des étrangers, mais qui en fait, c'est-à-dire on leur rappelle le statut d'étranger parce qu'il y a la guerre. Vous savez, c'est un peu comme les Juifs qui avaient un peu oublié qu'ils étaient Juifs et on leur a rappelé à la Seconde Guerre mondiale qu'ils faisaient partie d'une catégorie qu'on considérait à part et qu'il fallait contrôler et voir anéantir.
Malheureusement.
Donc, voilà, donc vous voyez, c'est des fois l'histoire se rappelle aux familles et aux personnes de manière très violente. Voilà. L'autre présence, raison de la présence des étrangers, entre guillemets, sur le territoire français, c'est qu'évidemment, la Première Guerre a fait que la population masculine est partie largement, et notamment la jeune population masculine, sur le front, et que du coup, on avait un manque patent de main-d'œuvre, qui s'est fortement fait sentir ici comme ailleurs. Donc, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que donc j'ai dit au tout début qu'il y avait beaucoup d'Italiens, notamment les Italiens qui résidaient de manière définitive, entre guillemets, dans les Basses-Alpes, mais aussi il y avait une migration saisonnière, notamment au niveau de Lubaï. Donc là, dès 1915, par exemple, les maires de Larche et de Barcelonnette s'inquiètent auprès du préfet de la disparition de cette main-d'œuvre italienne qui arrivait au mois d'avril et qui repartait en novembre et qui était absolument nécessaire pour les travaux agricoles. Et là, vous allez voir un petit peu, moi ça m'a quand même sidéré. Donc le maire de Larche rappelle que les Italiens, les années précédentes, y arrivaient à cette époque, autour d'avril, par centaines les vendredis, surtout les enfants au-dessous de 18 ans. Leurs parents venaient les y accompagner jusqu'à Barcelonnette pour les y placer pour faire des travaux d'agriculture. Une fois placés, leurs parents s'en retournaient en grande partie et ces enfants partaient avec leur patron pour y rester habituellement jusqu'au 11 novembre, puis revenaient franchir l'école pour rentrer chez eux les poches pleines. Ça paraît absolument sidérant. Je ne parle même pas du travail des enfants, etc. Mais voilà la réalité qui, du coup, s'est stoppée. Et alors, non seulement il n'y avait plus cette migration, mais en plus, les jeunes hommes étaient partis sur le front. Donc, il y avait un manque cruel de main-d'œuvre. Donc, ça a été très dur. Dans les petites fermes, les femmes, évidemment, suppléaient aux besoins. Les enfants de la famille s'y mettaient, les voisins, parfois, c'était de l'entraide. Dans les grands domaines où il y avait des grandes surfaces, c'était beaucoup plus compliqué. Donc là, on a fait appel à des prisonniers, des prisonniers qui sont venus relayer la main-d'œuvre disparue. Donc ce qu'on appelle donc des équipes agricoles ces équipes agricoles en fait étaient composées de deux prisonniers. Par exemple, en septembre 1917, le préfet déclare avoir obtenu 455 prisonniers de guerre, dont 355 constituent des équipes fixes et 120 des équipes volantes. Voilà, donc les prisonniers supplés, on est dans un côté un peu absurde, mais voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ces prisonniers qui travaillent, c'est pas seulement dans le domaine agricole. On a évidemment, dans le département, l'exemple de l'usine de Saint-Auban, une usine chimique créée en 1915, qui a fait appel à des prisonniers aussi, mais aussi à une main-d'œuvre étrangère, pour le coup. Alors, vous savez, c'est une usine de chlore, qui est construite donc finalement en 1916. Le site de Saint-Auban n'a pas été choisi au hasard, je rappelle quand même très vite. Proximité du train, matière première accessible, sel marin, l'eau et le potentiel électrique de la Durance. C'est pas pour rien que ça s'est installé ici. Et donc, en fait, il y a une centaine de prisonniers qui sont actifs sur le chantier de construction. Et en juin 1917, parmi les 900 ou 1000 ouvriers de l'usine, les listes ne sont pas très précises, on va dire. On sait qu'il y en a au moins 175 qui sont des prisonniers de guerre. Et à l'intérieur, il y a 60 mains. Et en plus, 61 ouvriers indochinois. On sait qu'il y avait des Kabyles, des volontaires d'origine arménienne. Alors, on dit volontaires, en fait, des gens qui étaient poussés par la misère et qui venaient s'engager... Dans cette usine. Donc, on sait qu'il y a des Arméniens, des Grecs, des Roumains et des Tchèques. C'est à peu près ces nationalités-là qu'on retrouve. Donc là aussi, autre petit portrait d'un autre étranger, donc qui s'appelle... Je ne sais pas parler indochinois. Donc, Xu Vuan Dao. Voilà, donc lui, il est affecté à l'usine de Saint-Auban. On sait qu'il est né vers 1885 au Tonkin. Et comme lui, il y a 7000 Indochinois qui vont arriver dans ce qu'on appelle la 15e région militaire, dont dépend l'usine à chlore. Donc l'usine de chlore, évidemment, on ne reçoit pas 7000 Indochinois, mais ils vont être répartis dans les 15000, la 15e région militaire. Alors là, C'est une colonie, hein. Évidemment, là, on est un peu à cheval sur... mais j'en parle là parce que c'est pas un soldat, hein, mais donc lui, c'est un étranger de l'intérieur. Je sais pas comment on pourrait l'appeler. Donc là, je voulais en parler parce que là aussi, l'histoire est assez extraordinaire. Il a rencontré, en fait, une jeune femme, une Française, Marie Coquelet, qui, elle, est née en 1897 à Châteauroux. Alors, je sais pas trop comment il l'a rencontrée et où. Ils ont une fille, Huguette Marie, qui est déclarée enfant naturel et qui naît elle aussi dans l'Indre en 1918. Donc vraiment, l'idylle s'est nouée pendant la guerre. En 1920, Marie Coquelet sollicite le gouvernement afin d'empêcher le rapatriement de son compagnon vers l'Indochine. Parce qu'évidemment, après la guerre, on n'avait plus besoin d'eux. Hop, on voulait les renvoyer.
Puis c'est une colonie.
Voilà, là, c'est une colonie. Donc on les prend, on les... Voilà. Donc, mais bon, là, sauf que là, il y a eu mariage. Donc c'est... ça... Comment ça... Ça, voilà, c'est plus, c'est pas un pion isolé. Donc cette main d'œuvre non européenne a été dès l'origine considérée, c'est une citation, comme une variable d'ajustement destinée à repartir dès l'expiration de son contrat, à repartir dès l'expiration de son contrat. Donc là, c'est une historienne, hein, qui a travaillé sur les Vietnamiens dans la Grande Guerre, hein, et qui évoque cet aspect-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un cas unique, hein, le cas Xu Van Dao. D'ailleurs, l'administration française s'inquiète, parce qu'évidemment, ils veulent éviter que les mères suivent le père de leur enfant en Asie lorsque celui-ci est contraint de quitter la France, parce que ça fait mauvais genre. Vous voyez, un couple métissé avec en plus des enfants. Voilà. Donc, ils ont pas très envie que ces couples aillent en Indochine. À la limite, ils préfèrent que ça reste en France où ça se voit un petit peu moins, parce que c'est une... Voilà, c'est noyé dans la masse, j'allais dire. Et d'ailleurs, il y a une note du contrôleur général Pierre Guedes en 1920 qui indique, je cite, hein, « Le prestige français de l'Indochine serait particulièrement entaché par l'arrivée de ces femmes dans la colonie. Cela pourrait détruire, là c'est à nouveau la citation, un ordre colonial entièrement bâti sur l'interdit sexuel fait à l'homme colonisé concernant les femmes européennes. » Voilà, parce que... Évidemment, l'inverse n'étant pas tout à fait vrai, mais bon, ça, on va pas ouvrir le débat. Donc voilà, les pères sont, du coup, si justifient les moyens d'existence, autorisés à rester en France pour se marier. Et effectivement, Xu Van Dao et Marie Coquelet vont se marier en 1921. Elle va perdre sa nationalité française. Pareil. Et elle va. C'est en 24 quand Xu Van Dao devient français par naturalisation. Elle récupère sa nationalité française. Voilà, donc c'est quand même des sacrées histoires. On sait que la famille Daou vit à Château-Arnoux au moins jusqu'en 26. Et on sait aujourd'hui, hein, qu'il y a des descendants de ces couples-là qui vivent encore dans le département. Pour revenir vite fait sur l'usine de Saint-Auban, parce que c'est vrai que j'en ai parlé un petit peu, enfin j'ai surtout évoqué ce portrait assez incroyable de ce travailleur indochinois, mais il y avait donc plusieurs catégories de population qui travaillaient à l'usine de Saint-Auban, donc des étrangers, je vais les lister un petit peu après, du personnel colonial comme Xu Van Dao, pardon, et puis aussi des prisonniers, donc évidemment, on a du mal à imaginer comment tout ça pouvait fonctionner. Hein. Il y avait quand même la barrière de la langue. Je suppose que quand on était prisonnier, on n'était peut-être pas forcément très content à l'idée de travailler en territoire ennemi pour dans une usine. Donc tout ce personnel était placé sous la surveillance des autorités de la police, de l'armée et de la préfecture. La main d'œuvre donc dite indigène, hein, qui est en fait la catégorie qu'on appelle comme ça les travailleurs coloniaux, elle relevait de ce qu'on appelait le service de l'organisation des travailleurs coloniaux, le SOTC, qui était placé sous l'autorité du ministre de la guerre. Les travailleurs nord-africains ont un statut d'ouvrier civil comme les travailleurs chinois. Donc l'autorité policière va dresser un tableau et donc fait état de 386 travailleurs étrangers, dont 13 femmes et 52 enfants, qui se décomposaient comme suit, 164 Chinois, 121 Espagnols, 57 Italiens, 20 Grecs, 5 Arabes, 16 Tchèques, 16 Annamites, 3 Suisses, 2 Serbes, 1 Polonais, 1 Alsacien, 1 Russe et pour finir, 175 prisonniers.
Et oui, Alsaciens, parce qu'à l'époque, l'Alsace était de l'autre côté.
Et oui, et d'ailleurs, quand il y a les papiers d'identité pour les étrangers, on a là une carte d'une Alsacienne qui pose en costume alsacien. Bon, les photos d'identité étaient moins normées qu'aujourd'hui. Donc, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, elle veut affirmer sa différence avec une Allemande. Donc elle pose, elle est sur sa pièce d'identité, elle a sa coiffe alsacienne, sa robe, ça c'est incroyable.
Elle n'est pas venue avec une cigogne.
Non, c'est peut-être pas été autorisé quand même. Mais voilà, donc ça paraît fou. Là, je parle des Serbes. Il y a une petite particularité dans le département, c'est qu'à Josier, il y a une école qui a accueilli des jeunes Serbes, uniquement des Serbes, et voilà pour qui avait fui la guerre, hein, et qui venait se former dans cette école. Donc, petite incise. Voilà. Donc vous voyez, alors après, c'est vrai que c'est assez difficile de finalement d'écrire toute l'histoire de ces trajectoires, parce que on sait qu'à un instant T, il y avait donc 386 travailleurs, mais on n'a pas toujours, après, comme vous m'avez posé tout à l'heure la question, que sont devenus ces gens-là après ? C'est parfois pas toujours facile de les pister, de savoir ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'ils sont repartis, est-ce qu'ils ont fait souche ici. Ça mériterait, l'histoire est un peu un travail d'enquête, hein, et ça mériterait de suivre certains pour essayer de comprendre comment ce qu'ils sont devenus, tout simplement, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour les travailleurs. Donc je vais revenir aux prisonniers, parce que là aussi, ça va générer tout comme tout à l'heure, j'ai évoqué le fait qu'à Hanot, la population trouvait que quand même, ça faisait un peu camp de vacances. On a une citation d'ailleurs dans le. Ils sont pas très contents parce qu'eux, ils sont à la peine et ils ont l'impression que ces gens-là, finalement, sont bien tranquilles, n'ont pas besoin de travailler.
Ça n'a pas changé.
Ah ben non. Non, c'est vrai qu'on retrouve des... Voilà. La population locale a tendance à ne guère apprécier les conditions d'internement vues comme favorables si on les compare notamment aux conditions de vie dans les tranchées. Et on signale donc des heurts de la part de certains qui ont tendance à voir le dépôt comme une sorte de vacances, de camp de vacances pour Bosch. Hein, parce qu'évidemment, pour les gens, ce sont des Bosch. Voilà, donc non, c'est pas simple. Hein, donc là, on va parler des prisonniers, puis après, je parlerai très, très vite des évacués, parce que finalement, les évacués français, hein, qui sont repoussés par le front à venir dans des zones où le conflit fait moins rage, ben, sont aussi perçus comme des étrangers. Et alors, il y a une phrase absolument incroyable pour vous dire quand même... Ça ne devait quand même pas être simple. Il y a... Faut que j'arrive à retrouver la citation, pardon. Je vais essayer de retrouver ça, excusez-moi. Hein. En fait, ça y est, j'ai retrouvé. En 1915, le préfet évoque l'accueil des bas alpins de la première vague de réfugiés, donc l'évacué, hein, selon le mot du préfet, qui était bien reçu au début de la guerre et ensuite parfois difficile à supporter par l'indigène, donc à savoir la population locale, de souche. Donc afin d'illustrer ses propos, le préfet rapporte des propos qu'il a entendus, qu'on lui a rapportés. La population n'est pas hospitalière, clame une réfugiée. C'est la réfugiée qui l'est trop, ripostent les habitants. Voilà, parce qu'évidemment, je fais cette transition-là avec les prisonniers, c'est-à-dire que très vite, il y a des rumeurs aussi sur la prétendue intimité développée entre des évacués et alors pire, les prisonniers et les femmes restées au pays. Et alors, ça donne quand même des choses assez incroyables. De toute façon, on a vu à la Seconde Guerre mondiale ce qu'a donné l'épuration, où il y a eu quand même une répression très très dure hein, de ce qu'on appelait la collaboration horizontale. Là aussi, qui est, en termes de réaction, totalement disproportionnée par rapport à ce qu'auraient pu faire des hommes. Enfin, vous voyez, là, enfin, je voudrais pas vraiment. La journée de la femme, c'était il y a pas très longtemps, donc je fais une petite accroche féministe, mais c'est vrai que c'est assez incroyable comme les femmes payent toujours quand même un très lourd tribut et sont très lourdement réprimées. Quoi.
D'où la chanson de Georges Brassens, La Tondue.
Et ben voilà, exactement. Donc là. Première Guerre mondiale, pas tendue, mais alors vous allez voir, la présence des prisonniers de guerre, dont certains sont de jeunes hommes, crée une certaine animosité de la part de la population. Donc alors, on leur reproche deux choses, on leur prête des entreprises de démoralisation, hein, le fait qu'ils disent des choses pour démoraliser la population locale, et on leur prête aussi des relations intimes avec des basalpines. Alors vous allez voir, assisteront, on a des rapports, hein, des rumeurs parviennent jusqu'aux oreilles du préfet. Elles font état de débordements, voire de bagarres, lors de l'arrivée de 4 convois d'officiers allemands internés à la citadelle, mais ce ne sont que des rumeurs. Le sous-préfet de Sisteron l'informe en retour que dans les faits, les 2 premiers convois d'officiers sont arrivés à la citadelle sous les cris des femmes et des enfants, et puis ensuite les 2 derniers sont passés inaperçus. On accuse des prisonniers en équipe agricole de tenir des propos portant atteinte à l'état d'esprit de la population. En février 18, le commissaire spécial de Sisteron enquête à la demande du préfet sur une affaire qui se serait déroulée à Puymoisson, où un prisonnier aurait déclaré à des femmes qui cassaient des amendes. Alors évidemment, vous allez comprendre, c'est un russe, hein, que c'est transcrit « Paix faite avec la Russie, on va retourner troupes contre France, on va dire à Poincaré « Voulez-vous encore guerre ? Si oui, France capoute ». Un de ses camarades, décrit comme jeune, beau, blond et crâneur, se serait engagé à flirter avec une jeune femme qui, en instance de divorce, aurait déjà promis sa main à un poilu du front. Alors là, vous imaginez, scandale, il piquerait une femme à un poilu. En réalité, d'après l'enquête diligentée par le préfet auprès de l'autorité militaire, il s'avère que les faits incriminés n'ont absolument aucun fondement. Donc on est dans le fantasme pur, hein. Tout à fait, ce qu'on a pu voir, ce qu'on peut voir actuellement, hein, par rapport à l'accueil de réfugiés, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème du tout. Hein. Attention, il ne m'appartient pas de commenter l'actualité, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des épisodes qui génèrent des angoisses, des inquiétudes, qui révèlent des frustrations et qui développent carrément jusqu'à des rumeurs. Quoi. Donc, oui, allez-y, je t'ai coupé.
Alors, je parlais de suspicion. Quoi.
Tout à fait. On est, de toute façon, vous savez, on est toujours l'étranger de quelqu'un. Hein. Donc, voilà. Donc, par définition, c'est. On va peut-être conclure là-dessus. Hein, c'est. Écrire l'histoire, ou en tout cas regarder les documents d'archives, ça permet beaucoup de relativiser ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Après, on ne peut pas juger, parce que d'abord, on ne sait pas comment nous, on aurait agi et réagi à cette époque. Des fois, on ne sait même pas comment on agirait ou on réagirait aujourd'hui. Voyez, donc, ça permet quand même de relativiser, de voir qu'il y a vraiment une permanence de l'histoire, une permanence des réactions humaines, tout simplement aussi. Et je trouve que c'est important de le rappeler. Voilà. Parce que les gens ont toujours l'impression que ce qu'ils vivent, c'est la première fois, c'est une catastrophe. En fait, parfois, les gens qui vivent ces situations ont eux-mêmes été des réfugiés, des évacués, des étrangers à un moment donné. Vous voyez,
c'est ça.
Il faut le rappeler, quoi.
On dit toujours que l'histoire est un éternel recommencement, sans qu'on le sache forcément.
Tout à fait.
La preuve en est, hein, quand on gratte un petit peu l'histoire qui n'est pas si lointaine.
Et puis qui est très locale. Hein. Ouais. Enfin, je veux dire, elle est près de chez nous. Hein. Je veux dire, là, on est Puymaisson, Sisteron. On est vraiment très, très près. Voilà, et on est dans une zone de frontière, hein, de toute façon. Donc, par définition, une zone de frontière est amenée à avoir des mouvements de population, et que ce soit des migrations définitives ou des migrations saisonnières. Voilà, c'est une constante de l'histoire humaine.
Il n'y a qu'à voir les noms des personnes qui soient responsables ou pas, qui ont des noms à consonance italienne, qui ont été franchisés, le PH, le F qui est devenu PH parce que ça n'existait pas, et ainsi de suite. Quoi.
Tout à fait.
Et tout à l'heure, vous parliez de M. Rosano,
oui.
Qui est devenu M. Rosan.
Rosan, tout à fait.
Voilà. C'est une faute de, au niveau de l'état civil ou c'est une
volonté? Non, en général, les gens... concrètement, comment ça se passe à l'époque, je ne sais pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a, il y a une volonté de part et d'autre, en fait, de franciser tout ça. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est très difficile de changer de patronyme, hein, par exemple. Hein, il y a 2 raisons majeures pour changer la graphie d'un patronyme. C'est le fait que le patronyme soit ridicule ou qu'il y ait à consonance étrangère et qu'on veuille le franciser. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'à l'époque, si vous voulez, quand un étranger devenait français, qu'on lui donnait la possibilité de franciser son nom. Parfois, ça s'est beaucoup vu pour notamment les noms slaves, très compliqués, avec beaucoup de consonnes. On a enlevé quelques consonnes ou abrégé le nom pour le faciliter, parce qu'il était dur simplement à dire dans la langue française. Voilà. Après, est-ce qu'il y a eu obligation de franciser ? Je ne pense pas, puisque sinon, il n'y aurait que des noms vraiment très, très français aujourd'hui. Or, on voit... Il suffit d'ouvrir un bottin, mais ça fait un peu vieux jeu, on va dire, d'ouvrir les pages jaunes sur Internet. Il y a beaucoup de noms de plein d'origines. Et c'est ce qui fait la richesse aussi d'un pays et d'une langue.
Et puis les noms ridicules, ajouter une CDI à Monsieur Cossu.
Voilà, par exemple. Non, mais toujours aujourd'hui, on voit dans le journal officiel des modifications de noms. Heureusement que c'est possible, parce que c'est des voix pas faciles à porter pour la personne et sa famille. Voilà, bah, un petit tour d'horizon rapide des étrangers dans la Grande Guerre. Et c'est un sujet qu'on pourrait dupliquer, les étrangers pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, et puis effectivement, parler aussi de ces coloniaux qui ont été très, très présents. Hein. Moi, je me dis toujours le choc que ça a dû être pour des gens qui venaient de pays tropicaux d'arriver en plein hiver sur le front au nord de la France. Ça a dû être... Déjà, si vous voulez, ça a été ultra violent pour le jeune basalpin ou le jeune de n'importe où de France, surtout au fond des tranchées. Mais alors, j'imagine quand même le choc thermique, culturel, physique, enfin, je ne sais pas, tous les adjectifs qu'on pourrait trouver pour ces personnes qui venaient de pays, de conditions climatiques notamment totalement différentes. Ça a dû être vraiment quelque chose de très, très difficile.
Et puis de se retrouver du jour au lendemain au milieu de ce conflit.
Quoi. Voilà, tout à fait. Donc, on devait un peu se demander pourquoi on devait se battre pour ça. Hein. J'imagine que ça ne devait pas être évident. Voilà, juste pour terminer, une petite actualité, puisque ce soir, aux archives départementales, à 18h, nous accueillons les comédiens de la Mobile Compagnie, comme très régulièrement à Digne ou dans le département, dans les communes, qui vont nous lire des archives consacrées à la vie rurale. Hein. Vous savez, on est toujours dans l'exploitation du travail d'Éric Fabre sur la vie rurale en Haute-Provence. Et donc, des textes d'archives ont été sélectionnés pour illustrer cette thématique sur comment vivaient les basalpins de la campagne, essentiellement de la campagne, dans les siècles passés. Alors, c'est en général surtout des archives 18, 19e, voire début 20e. Voilà, donc vous êtes tous cordialement invités. L'entrée est libre à partir de 18h et il y aura une petite boisson offerte à l'issue de la lecture pour échanger avec les comédiens, Monsieur Labadie et nous-mêmes. Voilà, et une dernière annonce aussi qui aura lieu avant la prochaine histoire d'archives sur Fréquence Mistral. Ce sera le jeudi 12 avril à 18h. Nous recevons Olivier Faure, qui est professeur honoraire d'histoire contemporaine à l'université Jean Moulin de Lyon 3, et qui va nous parler d'un officier de santé qui a exercé à l'Ajavie, qui s'appelait Monsieur Convert, et il va en profiter pour nous parler de ce que c'était qu'être officier de santé au début du 19e dans les Basses-Alpes, une profession au service des campagnes. Donc voilà, donc ce professeur est spécialiste de l'histoire de la santé, de la médecine, et donc il s'est intéressé à ces fameux officiers de santé qui n'étaient pas vraiment des médecins, mais qui faisaient un peu office d'eux. Et il va nous expliquer un peu ce que c'était, parce qu'on a complètement oublié ce métier étrange qu'officier de santé. Voilà, et je vous remercie.
Merci Laure, et puis rendez-vous au troisième jeudi du mois d'avril.
Tout à fait, merci, au revoir.